Police Liqueur, épisode technique, je suis accompagné de Michael.
Effectivement.
C'est lui-même qu'en personne. Aujourd'hui, il va nous parler du DNS Flattening, qui est une technologie qui a des aspects de sécurité très importants et peut-être un peu abstraits pour la plupart des gens. Donc, justement, il va démystifier ça un peu. Puis, dans ce cas-ci, puis comme on parlait en pré-show, je vais jouer le newbie. Fait que je vais faire comme si je connaissais rien et je vais poser des questions.
Bon, c'est bon, ça prend bien les choses. Ben, je pense qu'on va aller un petit peu plus loin aussi que juste le DNS Flattening. Je pense que le DNS en général, c'est rare que je rencontre une compagnie qui me dise qu'ils sont super ferrés en DNS. Là. C'est bien souvent, c'est même le point faible de pas mal de clients ou même de ben du monde en général. Là. Tu sais, même si tu rencontres quelqu'un qui est en IT, il n'a pas souvent mis les mains dedans. Là. C'est comme bien souvent, ils sont fébriles un petit peu de vouloir toucher au fil, si tu vois ce que je veux dire. Là. C'est comme. C'est quoi que ça fait ça déjà là, ou comme c'est quel record qu'il faut que je change, pourquoi faut que je change, qu'est-ce que ça va faire concrètement. C'est un petit peu ce bout là, tu sais, qui devient un petit peu le si on peut dire le gros point d'interrogation de bien du monde en informatique. C'est que c'est tellement quelque chose que, comme, si t'es chanceux dans l'organisation, t'as touché à ça une fois au début de l'organisation, tu l'as setupé. Au bout de 5 ans, peut-être quelqu'un a changé quelque chose, a décidé d'installer quelque chose. Puis c'est un petit peu comme ça que ça se propage, si on peut dire, dans l'organisation. Puis ce qui est intéressant, ben, c'est qu'il y a beaucoup de technologies aujourd'hui, comme le DNS Flattening, qui permettent justement de rajouter des perks de sécurité, de venir rajouter des politiques à l'entreprise pour pouvoir dire, ben écoute, on est conscient du danger que ça apporte, cette bébelle-là, dans l'organisation. Puis que bien souvent, c'est la dernière affaire qui reste en dessous de la carpette, en dessous du tapis, que personne ne veut entendre parler, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, ben, on secoue la poussière, puis tout le monde sait pas trop qu'est-ce qu'il regarde. C'est juste un nuage...
Un nuage de poussière, oui, mais pour avoir vu des organisations en général, ils vont mettre le strict minimum du fonctionnement des choses. Et si c'est pas juste des DNS Microsoft qui ont mis à côté de leur système, juste à cause de l'intégration avec l'Active Directory, puis ils sont jamais allés beaucoup plus loin que ça, s'interroger. J'avais même vu dans certaines organisations des services DNS qui normalement sont super sophistiqués, mais qui n'ont jamais été utilisés autre que de faire juste insérer un nom puis associer à une adresse IP, puis c'est à peu près tout ce qu'ils faisaient avec une très belle technologie par ailleurs. Là.
Exact. Puis c'est parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, ben, c'est qu'on est rendu un petit peu ailleurs. C'est vrai que ça reste de quoi de historique, si on peut dire le DNS, on est pogné avec, puis ben du monde sait ce que ça veut dire. Mais dans la réalité, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on est rendu avec des concepts comme le flattening, qui est un peu comme le concept de se plugger sur un VPN. Tu viens tu dis à ton DNS, écoute, ben moi, mon information, elle va venir de ce serveur-là, mais ce serveur-là, c'est pas mon serveur. Fait que ça te donne un petit peu l'effet de proximité, de cacher finalement l'information sur tes services, où est-ce qu'ils sont hébergés, puis par qui qu'ils sont hébergés, puis pourquoi qu'ils sont hébergés là. Dans certains cas, c'est assez obvious. On va se dire, si tu fais affaire avec, exemple, Amazon, qui le fournit justement avec la route 53, malheureusement, tu vas voir un CloudFront passer, fait que tu vas avoir une bonne indication d'où est-ce que c'est hébergé. Mais en même temps, dans certains cas, comme dans le cas de justement de nous avec CyberWall, ben c'est un petit peu l'idée de faire, ben écoute, CyberWall peut être un petit peu n'importe où, fait que comme il y a pas vraiment de plan pour dire, hey, écoute, c'est hébergé là, puis tu vas avoir une façon de guesser où est-ce que ton target pourrait être. C'est l'idée de pouvoir dire, j'ai point A, point B, un petit peu comme le VPN, puis je fais passer mon trafic ailleurs. Mais dans le contexte DNS, c'est un peu particulier parce que DNS, ça fait quoi en vrai? Dans le fond, DNS, pour bien du monde, c'est abstrait parce qu'ils savent plus ou moins où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Mais c'est au final, c'est comme le registraire quand on regardait dans le temps là, pour la Bible téléphonique là, pour savoir « Hey, je vais appeler telle personne, je veux savoir son nom, son adresse, puis trouver son numéro de téléphone finalement à l'annulaire téléphonique. » Ben, c'est la même affaire, en fait, mais format digital. Mais là, la joke, ce qui arrive, c'est que là, quand on est rendu avec l'annulaire est tellement épaisse avec tout ce qui se passe sur l'Internet que ça devient un nightmare à gérer. Les plus gros joueurs de l'industrie ont dû trouver des tactiques, justement, pour gérer ça un petit peu sur le pilote automatique. Il y a des autorités là-dedans. Il y a plusieurs niveaux de DNS. Tu peux faire affaire pleinement. Puis dans bien des cas, ben ce qui arrive, c'est que les compagnies vont faire, ben écoute, on peut pas gérer ça, fait qu'ils ont acheté un domaine chez GoDaddy, ou Namecheap, puis c'est eux qui gèrent Home the Nest, puis ils savent même pas parce qu'ils veulent pas toucher à ça, justement. Puis il y a aucune sécurité en place, il y a aucune redondance en place automatisée, il y a rien qui a été mis en place pour gérer tout ça. Puis le jour qu'il arrive un incident, ben malheureusement, qu'est-ce qui se passe?
C'est essayer de retrouver ça, comment ça marche là-dedans après, là. C'est beau, ça?
Exactement. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits qui sont basés justement sur des plateformes comme Azure, AWS et autres, parce que justement, ils fournissent ça en tant que service. Ça vient avec, tu payes un petit surplus et voilà, finalement, tu es capable d'avoir une redondance qui est plus juste au niveau de dire, ben écoute, moi, mon DNS, je sais comment il fonctionne. Non, tu sais comment il fonctionne, mais les autres, ils savent encore plus parce que leur DNS, automatiquement, à travers du DNS Flattening, il est capable de savoir qu'il y a plusieurs centres de données en parallèle qui ont les mêmes serveurs, qui sont capables de rediriger le trafic à celui qui est en vie et non celui qui est mort puis qui vient de se faire takedown ou qui a eu un incident physique. Ils sont capables de mitiger le trafic en temps réel avec ça. Tandis qu'une compagnie, exemple, que tout passe par un nom de domaine qui est pointé à une place, ben, aussitôt que le serveur y tombe, ben, qu'est-ce qui se passe? Pouf! Malheureusement, le site est hors ligne ou bref, la boîte de courriel ou peu importe ce qui était rattaché viennent d'envoler parce qu'il n'y a pas de protection en place. C'est ce qui arrive en fait. Puis c'est un petit peu là que ça devient intéressant de parler de DNS parce que la plupart du temps, le monde ne catch pas que quand ça tout passe par là. C'est comme un petit peu les indications pour se rendre à la destination là, sur le GPS. Là, tu sais, comme l'Internet, c'est pas magique. Puis comme malheureusement, ben si tu as juste une adresse, ben ta boîte de courriel, ça va tout là, puis la livraison de quelqu'un qui t'attaque, ben c'est directement chez vous. Tandis que la beauté de DNS Flattening, c'est que ça permet d'avoir un autre, une fausse adresse, une belle boîte postale virtuelle qui dit, ben écoute, cool, amène-moi tout ton stock, je t'attaque, je suis juste là pour ça, puis c'est moi qui va faire la distribution finalement du courrier aux bons endroits, au plus proche. Fait que ce que ça permet de mettre en place, c'est l'idée que justement, exemple, on se fait attaquer par la Chine, on se fait attaquer par la Russie. Ben, c'est que si on a une adresse postale en Russie, ben, ce qu'elle fait, ils s'attaquent en Russie eux autres même, ils attaquent leur propre serveur sans le savoir. Puis, nous, derrière ça, ben, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est de faire le relais de façon digitale pour ramener la requête. Si la requête, finalement, n'est pas du garbage, on peut dire, ben, on est capable d'automatiquement dire, ben, ah, oh, je sais où est-ce que ça s'en va. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant. Puis c'est un sujet qui est comme... Je pense qu'il y a besoin d'être démystifié un petit peu. C'est pour ça que je pense que le sujet de l'épisode était bien choisi dans un sens. C'est que c'est tellement profond jusqu'où que ça peut amener d'optimiser une business. Moi, je pense surtout à des clients, par exemple, qui sont dans l'e-commerce ou des trucs comme ça, qui ont tout intérêt à vouloir se focaliser, si on peut dire, sur ce genre de technologie-là. De un, que quand tu penses à des grandes surfaces du web, que chaque seconde compte, chaque seconde est un beau signe de dollars, de savoir comment tu peux optimiser pour que tes clients ils mettent leur carte de crédit plus vite pour faire plus de transactions. Je pense que ça devient intéressant puis d'être capable de mitiger la fraude en plus à travers tout ça et non d'avoir des requêtes qui partent de tous les quatre coins du globe pour venir pigner sur un serveur dans un garde-robe au Québec pour peut-être faire une transaction. Ben ça devient très intéressant, je pense, du point de vue financier puis du point de vue sécurité aussi, de pouvoir avoir une gestion plus intemporelle puis de pouvoir dire, ben écoute, moi, demain matin, je veux plus faire affaire, exemple, avec X, Y, Z, je change de centre de données ou je change de plateforme e-commerce, ben pouf, je le fais. Puis aux yeux de tout le monde, ben la boîte postale est encore la même place. Ils n'ont rien vu, ils ne savent pas je suis rendu où. Je peux avoir quadruplé mes serveurs derrière. Ils n'ont aucune idée que ça s'est fait. Puis la beauté de la chose, c'est que bien souvent, les plateformes, un petit peu comme la nôtre, permettent à la clientèle de pouvoir dire, ben écoute, moi, je veux genre, je ne peux jamais rien savoir de gérer mon DNS. Puis ça permet de dire, ben écoute, à la place que ton DNS soit géré par la boîte postale, exemple de GoDaddy ou de Namecheap, ah, OK, cool, il y a quelqu'un qui peut s'en occuper pour nous. S'il y a des changements à faire, ça va se faire tout seul. Ah, ben voilà, c'est là que c'est ça qui m'intéresse finalement. Puis c'est un petit peu ce côté-là, je trouve que c'est comme... À chaque fois que j'en parle à quelqu'un, j'ai l'impression que je vois deux points d'interrogation. C'est encore pire que parler de CDN ou de parler d'autres technologies du web ou du cloud. c'est comme, on dirait que c'est quelque chose qui est tellement tout le temps oublié ou comme poussiéreux quelque part dans le coin de la compagnie, puis personne veut n'entendre parler. Il n'y a même pas personne qui sait c'est qui a les permissions ou qui fait un check là-dessus sur est-ce que les choses sont à jour finalement.
Ouais, ben c'est parce que ça, c'est comment ils ont étendu la nature du service. Mais pour les plus vieux, doit se rappeler que Google est probablement dans les premiers à avoir déployé ce, de façon publique, connue publique, d'avoir déployé ce genre de technologie-là, justement. Puis par ailleurs, ça fait que quand peu importe on est où dans le monde, on a toujours la version locale de Google parce que c'est justement nous ramène toujours où on est, un peu comme tu mentionnes. Fait que si on a le Google.com, whatever t'es où dans le monde, ça va toujours ton Google local du pays ou la région dans laquelle t'es, avec des serveurs qui sont locaux à ce moment-là. Là, il y a d'autres patentes chez Google qui fait que c'est un peu plus compliqué en termes de notion, mais ils ont poussé ça très, très loin. Ce genre de technologie-là, ou en tout cas, cette façon d'étendre la technologie sans détruire le protocole lui-même, parce qu'on est encore dans le même maudit protocole qui a été fait là. Il y a vraiment un bail, là, j'allais dire un nombre d'années, là, mais tu sais, je suis sûr que je vais me tromper, puis quelqu'un va me le spécifier, là, mais tu sais, j'allais dire ça fait genre 30 ans que ça existe, mais peut-être moi, 40 ans que ça existe, puis tu sais, le protocole n'a pas vraiment beaucoup évolué de ça. Il y a peut-être le NSA qui est apparu, là, en tant qu'appareil de volet de sécurité, mais qui est un volet pour éviter de se faire voler des affaires de DNS et pas des affaires qui sont relatives par rapport à l'aspect que tu abordes, qui est plus de comment on dirige, puis on peut s'en servir justement pour envoyer des, comme tu pensais, des attaques dans le néant. Là. Fait que ça peut être très pratique d'envoyer des attaques dans un néant, des adresses IP, ou même si tu veux faire le comic, ben, tu le retournes sur l'attaquant lui-même. Là.
Exact. Tu peux faire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Puis il y a un autre volet qui est aussi très méconnu de tout ça, puis il y a un des bénéfices en fait. C'est que quand on a une plateforme complète qui est capable de bien gérer le DNS planning, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des politiques. Puis ça, ça devient très intéressant. C'est qu'on peut dire, ben écoute, exemple, moi, je sais que X personne dans l'entreprise a le droit d'accéder à un panneau d'administrateur, mais l'adresse du panneau d'administrateur ou de l'application ou du serveur qui héberge ces permissions spéciales-là, ben ils peuvent être pas juste guettés derrière un pare-feu, mais peuvent être aussi guettés derrière le DNS, en voulant dire que dynamiquement, le DNS est capable de détecter « OK, cette personne-là a besoin d'aller à tel endroit ». Ça permet de mettre en place ce qu'on appelle un petit peu comme un petit peu les mêmes choses que des politiques de pare-feu, mais au niveau du DNS, de pouvoir dire « ben écoute, moi, il n'y a pas un chat qui devrait accéder à ça à part X, Y, Z », ben automatiquement, s'il y a quelqu'un qui essaie d'accéder à cette boîte-là, ben poup, il va se ramasser... peu importe où ce que ça va avoir été cédé, on peut l'envoyer dans le néant, comme tu disais tantôt. Tu peux le faire répondre directement à la bonne endroit dynamiquement. Il y a mille et une choses qui peuvent être mises en place pour mettre en place un autre layer de sécurité pour dire, ben écoute, l'authentification, là, ben je ne l'ai pas faite juste à une échelle dans la couche de protection. Là. J'ai vraiment été, comme que je dis, tu es allé jusqu'à la carpet, tu l'as dépoussiéré, puis tu t'es assuré que tout est clean du début à la fin. Tu sais, que vraiment. T'étais pour mettre en place des protections finalement pour l'entreprise, mais t'es vraiment mis en place. Ça va en profondeur finalement de comme jusqu'où on peut aller. C'est peut-être trop pour bien du monde, on va se le dire. Il y a beaucoup de monde qui iront pas jusque-là. Mais je pense que ça revient un peu à la dernière épisode justement qu'on se parlait il y a pas si... avant l'enregistrement, qu'on a débordé un petit peu puis qu'on était rendu justement à parler du niveau de paranoïa. C'est exactement la même chose. C'est justement de voir jusqu'où la conformité va nous amener un jour, puis voir si on veut vivre avec justement une valise accrochée à notre poignet pour le reste de nos jours, parce que c'est peut-être pas la manière la plus fun d'en parler, mais bon, c'est comme c'est de la sécurité, veut pas, puis je crois que c'est important d'avoir une idée que ça existe finalement, parce que veut pas, on se rapproche d'un monde qu'on vit de plus en plus en ligne. Donc, on s'entend, je pense qu'il y a une importance de savoir qu'on peut se protéger plus que d'une façon, finalement.
Ben, ça s'additionne par rapport aux autres mesures, aux autres éléments qui sont en place. C'est très important, la façon dont tu le mentionnes. Puis, en même temps, comme tu dis, la plupart des gens s'y intéressent pas. C'est malheureux parce que c'est une belle pièce de technologie. Mais en même temps, c'est pour ça que des services gérés comme le vôtre, justement, est là pour décharger les gens de ces problèmes-là parce que ça les intéresse pas. Par ailleurs, ceux qui designent les technologies devraient savoir, pas design, mais design les plans, les architectures, devraient savoir que le fonctionnement de ces éléments-là pour en tenir compte dans leur réflexion et justement de s'en servir et que ça fasse partie des morceaux qui planifient ou perçoivent à mettre dans leurs environnements. Puis ça, je trouve ça un peu dommage qu'avec le temps, même les architectes ont de la misère à connaître ou en tout cas à maîtriser la technologie sous-jacente. Puis ça, je le vis en infonuagique principalement, où les gens ne comprennent pas toutes les couches d'abstraction. Quand ça devrait être justement les architectes devraient comprendre toutes les couches d'abstraction puis de réussir à comprendre les conséquences des choix qui sont faits à plus haut niveau justement des descentes. Le DNS est un très bel exemple parce que dans les couches d'abstraction, ça en est un palier qu'il faut maîtriser mieux. Puis en plus, que comme tu l'abordes, ça rajoute encore plus d'abstraction parce que le DNS lui-même n'est plus... Il te montre ce qu'il veut bien te montrer. Puis c'est ça l'aspect très intéressant dedans. Puis il y a l'entier contrôle. Ce n'est pas qu'un registre, c'est pas un annuaire statique. C'est un annuaire dynamique dans lequel les règles s'appliquent au gré du besoin qui est associé au moteur qui sert d'analyse avant tout. Là.
Exact. Puis il y a même un petit peu plus loin que ça, je rajouterais peut-être un petit agrément par-dessus tout ça. C'est la beauté de quand c'est bien utilisé, bien maîtrisé. Comme tu le dis à chaque couche, si tu es capable de comprendre ce qui est adjacent, tu es capable d'ajuster tes règles de pare-feu en conséquence, tu es capable de tout planifier pour que finalement, ben s'il arrive un incident, ton serveur est down ou le centre de données où tu es hébergé shut down, tu es capable de rester en vie, tu es capable de bien gérer la situation. Puis ça amène un côté positif, en fait, au niveau de la protection. Parce que bien souvent, puis je trouve ça vraiment drôle quand j'ai la discussion avec des centres de données indépendants, puis la première affaire qu'ils me posent quand on leur parle qu'on fait ce genre de service-là, c'est comment vous allez gérer le DDoS qui vient avec la couche DNS. Tu vois ce que je veux en dire? Parce que on s'entend, une des plus vieilles attaques DDoS de la planète, c'est à travers d'un serveur DNS. Hein. Parce que justement, ça utilise la couche UDP, et puis bref, je rentrerai pas dans les détails de comment faire l'attaque, je pense que n'importe qui peut la googler, là. Mais l'idée qui devient intéressante, c'est que si jamais il y a une attaque, ben malheureusement, quand ton serveur DNS, c'est une boîte postale qui est un petit peu vide, dans le fond, tu sais, il n'y a pas vraiment un target derrière, t'attaques du vide, ben ce que ça permet de faire, c'est de rediriger l'attaque, la voir venir, puis de pouvoir la rediriger où ce que tu veux, ou justement, comme tu disais tantôt, de l'amener dans le néant. Fait que ça devient aussi un mécanisme de défense à un autre niveau que justement, que c'est pas juste de pouvoir cacher une adresse un petit peu, tu sais, comme qu'on le ferait avec un VPN. Ça va un petit peu plus loin dans la stratégie aussi de défense de l'entreprise, parce qu'on s'entend, il y a un petit peu une couche de blue team en arrière de tout ça, que c'est comme si tu analyses vraiment ce qui se passe, puis tu as le contrôle. Mais là, tu peux prendre le contrôle total, comme tu disais tantôt, en redescendant. L'architecte, lui, qui a planifié l'application et l'hébergement et tout, il a pensé à tous les détails, mais bien souvent, il pense pas vraiment à que la compagnie ou le projet ou peu importe, s'il se fait attaquer, qu'est-ce qui se passe? Si moi, je te donne l'adresse, ben ton adresse est publique, malheureusement. Puis c'est un petit peu là que ça frappe, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Rendu là, ça devient un petit peu le rôle de l'entreprise ou peu importe qui c'est qui est propriétaire finalement de l'infrastructure, de devoir trouver comment se défendre. Puis c'est là que le bill de défense DDoS ou de protection et tout qu'il faut mettre en place, parce qu'on s'entend, je ne demande pas à aucune entreprise de commencer à apprendre comment se mettre en place toutes ces protections-là, mais c'est juste que comme si au moins il y aurait vraiment des architectes qui seraient au courant de toute la couche, ben, ça enlèverait même un poids, c'est comment dire, mais c'est un autre bénéfice caché de comme bien comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, puis de la mécanique de tout ça, que si c'est bien intégré, ben en plus, tu peux te mettre des mécanismes de défense que ça coûte zéro à mettre en place quand tu as la technologie entre tes mains, malheureusement. Puis ce qui est le plus beau, ben c'est que toutes les grosses plateformes qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit Google Cloud, que ce soit Amazon, Azure, malheureusement, offrent ce service-là intégré. Moi, je trouve ça toujours ridicule quand on me dit, ben écoute, voilà mon adresse de mon serveur, puis le client est hébergé sur Azure, puis que finalement, tu vois qu'il t'expose carrément ses configurations. Là, il n'y a rien utilisé. Leur architecture, tu sais, c'est automatique, c'est visuel. Tu es capable de savoir qu'ils n'ont pas pensé à tout ça. Là, tu sais.
Ouais, tout ça est un peu triste là, de constater ce genre de choses-là. Puis par la disponibilité des services, par la disponibilité des technologies. Mais en même temps, c'est un peu ça l'objectif, c'est de réussir à éveiller les consciences. C'est pour ça qu'on en parle présentement, justement, que les gens puissent puissent réfléchir sur ce genre de choses-là, puissent aller vérifier l'existence ou l'utilisation de ces éléments-là, puis s'en servir aussi dans un contexte, parce que quand on architecture la sécurité aussi, c'est que chaque composant est important, il joue son rôle, le DNS dans ce cas-ci, il joue son rôle qui est important, puis il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Puis on va dire, ah oui, mon firewall fait tout, peut-être, mais si tu es capable de mettre par couche, tu es capable d'arriver à un niveau de protection supérieur où ton firewall va faire juste la partie à la fin, mais tes DNS vont arriver avant, vont bloquer ou vont diverger les différentes informations qui ne devraient pas atteindre le réseau ailleurs ou les envoyer dans le néant. Fait que c'est cette réflexion-là de sécurité par couche, la sécurité en profondeur qu'on a tendance à appeler, mais en même temps, si je le vois plus dans un contexte de zéro trust où on va embarquer, où on vient toucher des zones de déflagration, puis faut s'assurer que si un contrôle échoue, n'entraîne pas l'ensemble de ton organisation. Puis c'est un peu ça aussi le danger, puis c'est une, puis je suis en train d'écrire un papier là-dessus aussi, sur le fait que, ouais, puis tu t'en vas en parler, parce qu'on met beaucoup d'énergie sur les contrôles, la liste des contrôles, notre catalogue de contrôles, on met des contrôles, on se pose des contrôles. Le problème, puis DNS en fait partie, c'est que cette réflexion-là n'est pas cohérente, n'est pas d'ensemble, puis toi, tu l'amènes vraiment dans une réflexion d'ensemble, où si un contrôle échoue, ça n'entraîne pas l'ensemble du système. La plupart des systèmes à l'heure actuelle, si un contrôle échoue, ça entraîne l'ensemble du système. On prend le firewall, par exemple, est un très bel exemple, ou les mots de passe, c'est un autre très bel exemple de mesure de contrôle. Si celle-là elle échoue, généralement, t'es foutu, t'es complètement, parce que t'as passé à travers le firewall, pour 80% des compagnies que je connais, t'as accès à tout. Même chose pour le mot de passe. Si tu trouves le mot de passe administrateur, t'es foutu. T'es rentré dans le système, puis ciao, bye, là. Puis, tu sais, by the way, tous les comptes Greg Inglass qui existent, avec tous ces mots de passe-là qui sont souvent stockés de façon croche, puis ils sont pas nécessairement de force assez faible, blablabla, ben voilà, ça en est d'autres exemples de contrôle qui, un contrôle va entraîner l'ensemble du... l'échec de l'ensemble de la sécurité. Fait que faut pas. Fait que le DNS, ça en fait partie. Mais tout ça, pour revenir justement sur le DNS, qui fait partie du paysage. On doit s'en servir, ne pas l'utiliser. C'est fou parce que, tu sais, c'est inclus en général dans les frais qui sont déjà là, puis dans le poids des services qui sont disponibles, dont le vôtre aussi, qui permet justement de bénéficier de ces éléments-là, puis de rajouter une intelligence dans les DNS, on pourrait dire.
Exact, puis c'est un petit peu ça le but, parce qu'on s'entend, comme je disais tantôt, le DNS, c'est comme le cossin plein de poussière dans le fond du garage que tu t'as oublié son existence. Puis mec, tu vends de la maison, peut-être que tu vas leur déterrer, puis tu vas faire « Ah, j'avais ça, moi! » C'est un peu l'analogie que je peux en faire pour bien du monde ou bien les compagnies. Puis j'étais pour en faire peut-être une parenthèse, parce que t'as parlé de deux choses qui m'ont intéressé. T'as parlé de Zero Trust, parce que justement, on est bien impliqué dans ce domaine-là. Mais l'autre qui m'intéresse encore plus, c'est justement le fait, la perception par rapport au monde, justement, qui pense qu'un single point of failure, c'est une bonne idée, en voulant dire que tu penses que t'as un pare-feu puis que ça va faire de la magie. Ben, tu sais, même moi qui vends justement un pare-feu intelligent, même s'il pourrait être le plus intelligent qu'il voudrait, le pare-feu, malheureusement, ben c'est une sécurité, comme tu le disais très bien. Ça revient à est-ce que ton mot de passe est sécuritaire? Peu importe comment il peut être long ou méga sécuritaire, on s'entend qu'il y a quelqu'un qui peut tomber dessus par hasard, le brute force. Tout est un petit peu conditionnel dans la vie, puis malheureusement, ben plus qu'on se met des... On s'entend, là, n'importe quel système de sécurité, puis peu importe à quel degré qu'on en parle, ben plus que tu as des couches qui travaillent ensemble, ben plus que c'est justement c'est ça qui fait de la vraie sécurité, qui te permet vraiment de dire, ben écoute, mon taux de chance, il vient de passer, exemple, on met un pare-feu intelligent ou on met un pare-feu tout court, bon, ben on vient peut-être de réduire de 75% la surface d'attaque. C'est déjà bien pour bien des organisations, mais on va se parler des vraies choses. Exemple, si on parle de protéger une banque, est-ce qu'une banque peut se soucier de se dire bloquer 75%, je pense pas. Je pense qu'il y a une question à se poser de société si une banque considère que c'est comme ça. Je pense qu'il y a une question de dire, ben écoute, je pense qu'on va être le plus proche de 99% possible. Tu sais, c'est un petit peu ça la parenthèse que je voulais en faire, c'est que comme finalement, ça revient un petit peu à mon niveau de paranoïa, comme je disais la dernière fois. C'est plus que tu es parano, plus que tu te rajoutes tes conditions de vie différentes, puis de t'intègre des nouvelles technologies, des nouvelles choses. Mais justement, le but, c'est pas, on ne peut jamais dire que la sécurité, c'est 100% parfait, mais au moins de pouvoir dire, ben mon risque, je le réduis à plusieurs couches, puis ça fait que comme bon, ben comme finalement, il n'y a plus juste 75% qui est bloqué, on tombe à 80 ou à 90%, qui est déjà pas mal plus intéressant dans bien des cas, surtout quand on parle des compagnies financières ou même, j'irai pas trop loin parce que j'ai certains litiges en tête qui me viennent à l'esprit juste en parlant. Puis c'est un petit peu ça finalement. Puis c'est de pouvoir mettre en place aussi des politiques à plusieurs niveaux, pas juste au niveau d'un pare-feu. Puis c'est ça qui nous amène justement au Zero Trust, que justement, on est déjà en train de développer une solution de Zero Trust de notre côté. Puis l'idée derrière, c'est que c'est justement de pouvoir amener la conscience que justement la politique qu'on pourrait tweaker, exemple au niveau du DNS, qu'on pourrait tweaker à tous les niveaux de l'organisation, finalement, on puisse le faire de façon le plus automatisée possible. Parce qu'aujourd'hui, on s'entend que ce qui vient avec justement quand il y a un bris ou qu'il y a un incident de sécurité dans une entreprise qui est totalement dans le cloud ou totalement, si on peut dire, éparpillée. La première chose qui se passe, on s'entend que c'est un lawsuit ou c'est une poursuite pour qu'est-ce qui va en suivre. Et puis, c'est pas intéressant de se faire dire qu'écoute, il y a des lois comme GDPR ou la loi 25 au Québec qui sont justement là pour nous faire réaliser qu'il y a une importance de protéger nos infrastructures. Puis le Zero Trust amène la parenthèse que justement, tu arrives avec des politiques que tu peux juste tout simplement twister le niveau de paranoïa et voilà, c'est parti. Le reste de l'entreprise va être forcé de s'authentifier à chaque fois qu'ils vont se connecter. Est-ce qu'ils viennent de la bonne endroit? Est-ce qu'ils ont eu un multifacteur authentication? Blablabla, pouf! Ils peuvent se connecter à l'application. Ils sont tracés d'un bout à l'autre. Là, on tombe dans un paradigme super intéressant de GDPR, de savoir ben, quelle information est sauvegardée, tracée, ainsi de suite. Puis c'est là que ça devient très intéressant. C'est que le paradigme, il s'applique à toutes les couches, finalement, comme on disait tantôt. Puis plus qu'on évolue en termes de compagnie, si on peut dire, puis je parle pas de ma compagnie personnellement, je parle en général, les compagnies sont dans un stade d'évolution, mais plus qu'on en arrive vers un jugement que de moins en moins, on veut se casser la tête avec ces politiques-là. On veut que quelqu'un s'en occupe pour nous, un petit peu comme qu'on veut que quelqu'un gère notre DNS, parce que des cas, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit au Québec. C'est exactement ça. Là. Tu sais, c'est la coïncidence oui. Parfaite.
Puis de toute façon, puis j'ai une image qui m'est apparue comme dans les autos modernes, il y a beaucoup d'éléments qui sont gérés tout seuls, les freins anti-blocage, l'anti-dérapage, l'anti-patinage, ces affaires-là. Les autos font ça, fait qu'on a comme aussi dans des contextes plus physiques, plus réels, délégué à de la mécanique et à de l'informatique cette gestion-là, l'électronique, qui nous permet justement de plus avoir à se soucier de pomper le frein pour pas que ça glisse et ainsi de suite. Fait que toute cette notion là et maintenant est prise en charge. Puis en TI, c'était le temps qu'on ait commencé aussi à tomber dans cet univers-là de choses gérées. Moi, je trouve que ça fait un bon tour de roue de cette technologie-là. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter?
Ben, à moins que tu aies des questions, non. Je pense qu'effectivement, on a fait le tour. J'ai impressionné. Je pense que ça fait plus qu'une demi-heure qu'on est là-dessus.
Je pense. Puis finalement, j'ai pas fait le newbie comme j'avais dit que j'allais faire. Fait que finalement, oups.
Ben exact, ben je pense que j'ai comme fait le tour de la piste aussi. C'était dur peut-être de placer une question dans tout ça, mais c'était. Je pense que ça va être un bit de knowledge intéressant pour ceux que ça intéresse en fait.
Excellent, mais merci beaucoup.
Ça fait plaisir.